Merci, Monsieur le Président. En définitive, nous sommes arrivés au nœud du débat et j'aimerais reprendre la phrase d'une diplomate cubaine difficile à traduire. Mais ici, c'est là où le bât blesse, pour ainsi dire. En définitive, nous appuyons pleinement le commentaire de Mexique s'agissant de la portée. Effectivement, nos yeux, il est de la plus haute importance que le champ d'application de ces activités couvre toutes ces activités commerciales, y compris celles à caractère transnational. Certes, nous avons suivi de près les échanges s'agissant de l'application de la résolution 26-9 qui avait été adoptée après une mise aux voix avec un mandat très important qui nous a été confié par le Conseil et vous avez mentionné la note de bas de page. Je pense qu'il faudra également prendre en considération la façon dont ces négociations ont lieu au sein du Conseil car la plupart du temps, ces notes de bas de page ne répondent pas à une considération juridique, mais bien à des considérations politiques. Peut-être que ceci peut permettre que des votes contre deviennent des abstentions, ou peut-être que des abstentions puissent se transformer en votes pour. Si j'en viens à la question juridique à présent, nous avons quelques difficultés au moment de comprendre comment donner des effets juridiques, peut-être au niveau national, un traité qui n'encadrerait que les entreprises qui ont des activités à caractère transnational, mais n'impliquerait pas les activités des entreprises inscrites au niveau national avec des activités ou avec des liens commerciaux avec d'autres entreprises, car au Panama, toutes les entreprises doivent être inscrites avec un siège local, puisque c'est comme cela que le prévoit notre droit commercial national. S'il ne s'agit que d'entreprises transnationales et autres entreprises à caractère transnational, et je dois avouer que j'ai quelques difficultés à faire la distinction entre ces deux concepts, dans ce cas-là, on parle d'un traité qui n'aurait aucun effet pour le Panama, ce qui est regrettable. Et ceci n'aurait pas d'effet pour les victimes potentielles dont les droits sont touchés par les opérations de ces activités transnationales par le biais ou par l'entremise de ces des entreprises au niveau local. Je pense donc qu'il faudrait essayer de trouver une marche à suivre comme nous avions essayé de le faire pendant la période d'intercession, mais je pense qu'à présent, il va nous falloir nous attarder sur cet article 3 avec l'appui d'experts, non seulement juridiques du point de vue universitaire, il va nous falloir des praticiens du droit, des différents cours des droits de l'homme, les différents systèmes régionaux, du droit commercial également, des experts. Il va falloir essayer de trouver un moyen de formuler les choses dans ce champ d'application. Qui ne diffère pas trop du mandat confié dans la résolution, mais qui ne crée pas des vides juridiques. Car ce que je crains, c'est que nous soyons en train d'adopter une formule adoptée dans la résolution, mais qui est une fiction pure et simple, qui n'aura aucun effet sur le terrain et qui irait à l'encontre de l'objectif même de tout cet exercice. C'est quelque chose qui va exiger beaucoup de notre temps pendant la période d'intercession pour essayer de mieux réfléchir à la chose et il va falloir compter sur différents types d'expertise, d'expérience pour essayer de voir comment nous allons pouvoir combler ce vide juridique. Ceci dit, j'aimerais également dire que nous sommes favorables au 3.1 tel qu'il apparaît comme adopté dans cette quatrième version du texte. Au 3.2, Nous aimerions faire une proposition. Éliminer à la première ligne, en anglais, obligation de prévention, et ajouter la chose suivante. Les responsabilités de respecter les droits de l'homme, et par la suite, à la quatrième ligne, on remplacerait obligation par responsabilité. Ceci est dû, et comme nous l'avions déjà dit, et d'après les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme, les États ont l'obligation de respecter, protéger et appliquer les droits de l'homme. Alors que les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de l'homme. C'est quelque chose que nous avions dit lors de sessions précédentes et c'est un élément important à nos yeux. Il est important que cette distinction soit reprise dans tout le texte. Il en va de même lorsque l'on fait référence à des violations. Les violations s'appliquent aux États strictement, mais lorsque l'on parle d'entreprise, il faut faire référence à des atteintes et le Mexique l'avait très bien expliqué. Sans préjudice de la proposition que nous avons faite au 3.2, nous pouvons nous exprimer pour la proposition du Mexique dans ce même paragraphe. Et s'agissant du 3.3, nous avons une proposition il s'agirait à la première ligne de supprimer internationally recognized, reconnu internationalement, ce qui est très important car le traité reprend tous les droits de l'homme et les libertés fondamentales car rajouter cette façon de qualifier ces concepts reviendrait à faire entrer en jeu une espèce de seuil subjectif et c'est ce que nous souhaitons éviter. Pour ce qui est de contraignants pour les États parties, nous pensons que la proposition du Mexique pourrait être acceptable, mais nous suivrons de près également les autres commentaires sur ce point. C'est tout pour notre part pour l'instant. Merci beaucoup.